Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et comme chaque semaine, je serai accompagné de Mehdi.
Salut à tous.
De Lucas.
Coucou.
Pour faire le tour de série, de l'actualité, de ce qu'on a maté de notre côté et puis pour aborder une série en particulier. Aujourd'hui, le pilote, ce sera Dragon Ball Z parce que oui, on vous fait un épisode un peu spécial. À la base, on devait vous parler de Shogun, vous aviez voté pour, mais actualité oblige. Nous sommes le 8 mars 2024 au moment où on enregistre et on a appris ce matin le décès d'Akira Toriyama. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'équipe de pilotes, on a déjà fait un épisode consacré à Dragon Ball. On aime bien, c'est un peu notre enfance à tous. Et donc, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de revenir sur une des séries de Toriyama. Et donc, on sait que c'est un manga d'une pièce, mais en animé, il y a plusieurs séries. Et là, aujourd'hui, on parlera de Dragon Ball Z. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Mehdi, Lucas, comment ça va ?
Moi, ça va bien.
Ça va.
Alors Lucas, on sait qu'il avait odette la semaine passée, j'espère que tout va bien.
Tout va toujours très bien.
Très bien, et Mehdi, toujours pas d'odette ?
Non.
Mais des super rideaux, ça on le voit à la webcam, c'est dommage qu'on ne fasse pas un épisode en live sur Twitch. Les spectateurs seraient contents, mais en tant qu'auditeur, ils ne voient pas tout ça.
C'est le système D.
Oh oui. Au sommaire de cet épisode de Pilote, les amis, on a des news où on parlera d'Avatar, de Young Sheldon, de Twilight ou encore de X-Files. Du côté des watchlists, pour Lucas, on aura...
On aura juste une petite série américaine, Babylon 5.
Pour Mehdi...
Moi, ce sera Meurtre et autres complications.
Et pour ma part, je vous parlerai de Shogun, parce qu'on n'en parlera pas dans le pilote, forcément, cette semaine. On reviendra dessus dans 15 jours. Mais en attendant, j'avais déjà envie de vous en parler un petit peu, parce que j'ai bien aimé la série pour le moment. Et on terminera l'épisode, comme convenu, aujourd'hui, sur Dragon Ball Z. Avant toute chose, si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous nous écoutez, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou toutes les autres plateformes en cast ou pas cast aussi. Et bah vous pouvez vous abonner, laisser une bonne note, laisser un commentaire évidemment si c'est possible, ça nous aide hein, pour remonter dans le fil d'actualité et des recommandations de ces plateformes-là. Ce podcast ne vous coûte rien, nous il nous coûte juste du temps, bref, en tout cas on peut passer des moments séries tous ensemble. Comme ceci. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe du côté de où, les amis ?
Facebook et Insta, mais surtout Insta, sur Pilote Podcast.
Exactement.
Et c'est là-dessus qu'on vous fait des sondages de temps en temps, dont ça a été le cas cette semaine pour Shogun, normalement, que vous avez fait exploser les votes. On ne s'attendait pas à autant de votes pour lui et si peu. Par exemple, pour monsieur et madame Smith, qui a reçu zéro vote après 24 heures.
C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes feelings au début. Lucas, il était en mode, ouais, sûr, c'est ça. Et moi, j'y croyais pas du tout à Shogun.
Et pourtant.
Ouais, on pensait que ce serait surtout Avatar. Il a reçu des votes aussi, mais pour chaque vote d'Avatar, il y en avait deux pour Shogun. Du coup. Pas très fair non plus, quoi.
Mais voilà, en tout cas, on parlera de Shogun la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Je suis pas bon sur calendrier ce soir.
La semaine prochaine dans deux jours. Deux semaines.
Exactement. Cet épisode commence comme celui de la semaine passée, c'est terminé. C'est un peu compliqué.
En fait, on les enregistre coup sur coup.
Oui.
C'est faux.
Tout à fait. On a déjà la saison 7 de prête là.
Bon. Allez. Est-ce qu'on passerait pas aux news?
Exactement.
De la
jingle. Et là, je me rends compte qu'on ne s'est pas accordé sur la conduite. Mehdi, tu fais le lancement, c'est moi qui l'attaque ?
Allez, Netflix commande deux nouvelles saisons d'Avatar, le dernier maître de l'air.
Une news disponible sur première.fr. Netflix a un nouveau succès, la série live-action Avatar qui cartonne sur la plateforme. Au top du podium des séries les plus vues en ce moment sur Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air, a remporté l'épreuve du feu. C'est pas Koh-Lanta. La plateforme semble ravie de ce succès d'ailleurs, puisqu'elle entreprend la commande de deux saisons supplémentaires, comme l'a annoncé TV Line. Les dates de sortie et le nombre d'épisodes n'ont pas été révélés, mais il s'agirait de conclure la série dans une ultime saison 3, fin du périple d'Aang. Un baptême de l'air réussi pour la série, car la première saison de 8 épisodes a fait son entrée dans le catalogue Netflix le 22 février 2024, intégrant rapidement le rang des séries les plus regardées de la plateforme. Le projet live-action de $120 millions compte 41 millions de vues au cours de ses 11 premiers jours sur Netflix, dépassant même la série One Piece à 37,8 millions, un autre remake basé sur un animé. Cette version s'émancipe de tout lien avec le film éponyme de Mr. Night Shyamalan, sorti en 2010. La série live-action Netflix reste fidèle à la série animée de Nickelodeon, créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, en mettant en lumière Gordon Cormier dans le rôle d'Ang, un jeune guerrier puissant, mais maître des quatre éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, dans cet ordre précis, pour vaincre l'impitoyable nation du feu et rétablir l'ordre dans son monde ravagé par la guerre. Le dessin animé éponyme avait remporté l'audience, aussi bien les enfants, les adolescents, même les adultes, dans son tourbillon folklorique chinois, voué à restaurer l'équilibre entre les éléments. En France, la série a été diffusée en 2005 sur TF1, mais aussi quelques années plus tard sur Nickelodeon France, ainsi que sur Game One. Albert Kim est aux manettes de la production artistique, aux côtés de Dan Lin et Lindsay Liberatore, qui assure la production exécutive, avec Michael Goy, par contre, lui aussi aux commandes. Une fine équipe, bref, qui justifie ce succès. Alors Mehdi, je sais qu'il est chaud sur Avatar, il est chaud, il est bouillant là, ouh là là, on est dans une ébullition la plus totale.
Toujours pas regardé, mais c'est dans les projets, j'ai juste toujours pas pris le temps, mais pas surpris de cette annonce, hein. C'était quasi sûr que ça allait arriver. Ils attendaient quand même de voir comment les gens allaient recevoir la saison 1 avant de confirmer ça. D'ailleurs, la façon dont ça a été annoncé aux acteurs est très drôle. J'ai découvert ça sur TikTok. C'est un petit cool vidéo, comme on fait là maintenant, avec le cast des acteurs principaux. Et c'est l'acteur, je n'ai plus son nom, mais qui incarne l'empereur du feu, mm-hmm. qui dit au cast, voilà les gars, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai hâte de parler avec la production, etc. Ils m'ont fait part donc des mises à jour sur la série et on ne sait pas trop comment annoncer ça, mais il n'y aura pas de saison 2. Ils ne vont pas annoncer une saison 2 parce que ils m'ont par contre annoncé une autre chose. En fait, ils vont annoncer une saison 2 et 3 en même temps. Et là, les acteurs au début étaient vraiment en mode, tu les voyais, t'en avais qui étaient tristes quand on lui dit « ouais, il n'y aura pas de saison 2 ». Ils étaient en mode « putain, mais fais chier quoi, ça a du succès, c'était trop bien ». Puis là, il y a une saison 2 et 3 directement, déjà annoncée. Et là, les acteurs étaient tout contents. Je trouve ça très chouette, cette façon-là de l'annoncer
ça me rappelle...
aux acteurs et faire le marketing, bien sûr.
Ça me rappelle tellement quand je m'occupais des castings pour The Voice Belgique et que je devais appeler les gens pour leur annoncer qu'ils étaient sélectionnés pour l'étape suivante au téléphone. Parce qu'au début, ils font les castings, tu vois, t'as des milliers de personnes. Et puis à un moment donné, quand tu dois leur annoncer qu'ils sont pris, là, je faisais des calls et je faisais aussi le suspense. Je fais, c'est Jack de The Voice. Ouais, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et c'est là, ouais, bon, ça va, on a compris. Ouais, la mauvaise nouvelle, c'est que, j'espère que tu serais pas trop déçu, mais tu vas être très occupé prochainement parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il y en a, ils étaient tellement dans le seum qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient sélectionnés. Et des fois, j'avais des gens qui pleuraient et moi, je comprenais pas qu'ils étaient contents. Je pensais qu'ils étaient juste dégoûtés.
Ah là là.
Déjà même dérangé des gens au taf comme ça et puis ils se faisaient engueuler par leur patron au téléphone parce qu'ils décrochaient parce que c'était la prod. Faites des surprises comme ça. Par contre, le faites pas si vous travaillez pas à The Voice. Voilà, sinon les gens sont déçus.
T'es preur de Voice. Hein, quoi? Mais j'ai pas postulé. Ouais, mais t'inquiète, t'es pris.
Ouais, mais tu sais, c'est à l'époque où on faisait headbanging à 48 FM avec François et Fabian. Donc ça remonte à il y a plus de 10 ans.
À l'époque.
Ouais. Et eux ont fait... Moi, j'y travaillais pas encore à The Voice à cette époque-là. Et eux faisaient croire à des gens qu'ils avaient gagné des places pour assister à l'émission. Donc, ils appelaient les gens. Ouais, félicitations, vous avez remporté le concours pour aller sur le plateau, rencontrer tout le monde, etc. Et ils le faisaient à des périodes où l'émission n'était pas diffusée. Mais les gens étaient super contents. Ouais, super. Bon, on va vous donner toutes les informations. Et puis, ils rappelaient jamais les gens. C'était des bâtards. Bon, ça nous éloigne du monde des séries. Mehdi.
Ouais, est-ce que, Lucas, tu as regardé, toi, Avatar, Le dernier maître de l'air, la série Netflix.
Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai regardé une minute du premier épisode et j'en avais marre, donc je suis allé faire autre chose. Je pense que je suis à la fois fatigué des remakes et que j'ai toujours eu l'impression que cette série-là en particulier, il n'y avait pas besoin d'en faire un. La série animée est très chouette. Elle est toujours disponible. Bah, vous pouvez aller la voir si vous êtes curieux. Moi, je suis assez fan, hein, d'ailleurs, de ces trois petites saisons vachement bien faites. Mais voilà, ce qui m'inquiétait depuis longtemps sur ce projet, c'est que les créateurs originaux devaient être impliqués et puis qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce que ben, ça leur plaisait pas ce qui se faisait. Et maintenant que j'ai vu quelques effets visuels et le look global, bon, en une minute, mais soit, ben, je comprends en fait ce qui les a fait partir. Je me dis, ok, c'est un autre truc en fait. C'est un remake qui a pas envie d'être un remake, mais du coup, c'est un peu rien parce que j'ai pas l'impression que ça se démarque d'une bonne façon de l'œuvre originale. Après, forcément, si on découvre la série comme ça, c'est peut-être intéressant. J'en sais rien. Puisque c'est pas mon cas, de toute façon. Moi, j'aime la série animée. Et ça me va.
De mon côté, j'ai toujours pas regardé non plus. Par contre, j'ai fait des superbes images par intelligence artificielle où j'ai transformé Avatar The Last Airbender en The Last Bartender. Et puis, Hank qui fait du café, c'est vachement bien. Là, je préférerais un spin-off là-dessus. Voilà, c'est mon avis. On passe à la suite ?
Ouais.
Allez, Mehdi, je t'emmène du côté de ton copain Sheldon Cooper, car il y aura un spin-off pour la série CBS de Young Sheldon.
Et oui, après l'annonce de la fin du spin-off de The Big Bang Theory, Young Sheldon, des bruits de couloir assuraient que CBS n'en avait pas fini avec la famille Cooper. Une rumeur que le network a confirmée ce mardi via un post Instagram reprenant l'article de Deadline. En légende de la publication, « Les aventures de la famille Cooper continuent. Préparez-vous à voir Georgie et Mandy élever leur petite famille au Texas tout en gérant les challenges de l'âge adulte, jeunes parents et du mariage. » Cette nouvelle addition au catalogue CBS est prévue pour la saison 2024-2025 et Montana Jordan et Emily Osment reprendront leur rôle. Et ce ne seront pas les seuls à remplir pour une nouvelle aventure. Chuck Lorre, Steven Molaro et Steve Holland reprendront leur casquette de producteurs qu'ils n'ont pas quitté depuis la production de la série originale. Cette nouvelle série, qui n'a pas encore de titre, marquera la 8e collaboration de Chuck Lorre avec CBS après Mon Oncle Charlie, The Big Bang Theory et Young Sheldon, entre autres, bien sûr. Les trois créateurs ont affirmé être très enthousiastes à l'idée de continuer à développer l'histoire des Cooper par le prisme de Georgie et Mandy. Différence de taille avec Young Sheldon, cependant, ce spin-off reprendra le dispositif de la sitcom multicaméra à la façon de la série mère de Big Bang Theory, plutôt que d'imiter le modèle single caméra de Young Sheldon. En tout cas, la chaîne semble faire confiance, peu importe le dispositif. Amy Reisenbach, présidente de CBS, soutient « Chuck et les deux Steve ont fait un travail magistral en développant ces personnages et en divertissant plusieurs générations de fans avec des histoires qui réchauffent le cœur et auxquelles ils peuvent s'identifier, incarnés par Montana et Emily. Nous nous tournerons avec impatience vers le prochain chapitre de cet univers que nous aimons tant. Avant chaque nouveau chapitre, une page se tourne. La dernière saison de Young Sheldon est en ce moment diffusée sur CBS à raison d'un épisode par semaine et devrait prochainement être disponible en France. Il me semble que c'était sur Netflix qu'elle était de base en France, les quelques premières saisons. Donc voilà, c'est plutôt une annonce qui, moi, ne... Je vais pas dire me hype, mais...
Est-ce que ça te réchauffe le cœur, Mehdi?
Je suis pas encore à jour dans Young Sheldon, donc je sais pas comment ça se termine. Mais je me dis, Young Sheldon était assez différent de Big Bang Theory pour que ça soit presque une série... c'est une série à part entière. C'est presque même pas spécialement lié à Big Bang Theory, à part le fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Sheldon dedans. Et avec des mini-rêves de temps en temps, mais c'est tellement différent dans la réalisation, dans l'écriture, que pour moi, c'est deux univers quasiment complètement différents, que je me dis, créer un troisième, s'ils arrivent encore à se renouveler et faire encore un autre truc différent, moi, ça peut être pas mal, je trouve. Donc, c'est sûr que je vais regarder ça, mais d'abord, il faudrait que je me remette à jour dans Young Sheldon.
Moi, je me demande si à force de faire des spin-offs sur la famille Cooper, on va pas apprendre au bout du 8e spin-off qu'en fait, Dale Cooper, l'enquêteur de Twin Peaks par David Lynch, fait partie de la famille des Cooper. Et qu'en fait, tout ça, ça se passe avant Twin Peaks. Tu vois, ce serait fou qu'en fait, toute la série de Big Bang Theory soit une anachronie. Ça pourrait, en fait. Il y a moyen. Et puis, on mangera des tartes, on boira du café entre Cooper. Ça, ouais, on peut aller loin dans la famille.
Déjà, Big Bang Theory s'était terminé parce que l'acteur de Sheldon Cooper, Jim Parsons, ne voulait pas rempiler pour 2 saisons supplémentaires. Et c'est pour ça que la saison 12 de Big Bang Theory était la dernière.
C'est vrai, il y a eu 12 saisons.
Il voulait encore faire 2 saisons de plus, quoi. Mais autant Big Bang Theory, je trouve que ça s'est énormément essoufflé, que là, Young Sheldon, bah, comme je dis, c'est complètement différent. Et ici, après cette saison, bah, voilà, c'est terminé. Dans la saison 7, ils vont aborder un peu la fin de l'adolescence, entre guillemets, enfance, slash adolescence de Sheldon, avec des grands moments de son histoire qu'on connaît, dont le décès de son père. Et donc voilà, mais c'était sympa, quoi, en tout cas.
Lucas, un mot pour la famille Cooper.
Moi, j'ai pas grand chose à dire parce que Mehdi a tout dit pour une fois.
Ben voilà.
En bafouillant parfois, de temps en temps, mais tout était là. Non, c'est vrai que c'est une sitcom qui a l'air assez bien développée, assez intéressante, mais j'ai pas pris le temps de regarder Young Sheldon, surtout parce que je n'aimais pas trop Big Bang Theory. Mais c'est vrai que si c'est 2 séries différentes, ça pourrait le faire, hein, j'en sais rien. J'ai rien contre le cast, déjà. Ça commence pas trop mal, hein. Ça pourrait être pire.
C'est vrai qu'il y a pas mal de séries où Lucas a des problèmes particuliers avec certains acteurs. Il a envoyé tellement de courriers, de plaintes. Il est interdit pour mater les épisodes. C'est problématique, Lucas, d'ailleurs. On te l'a déjà dit, il faut arrêter de harceler les comédiens.
Mais c'est leur faute aussi. il faut jamais faire semblant. C'est quoi ces gens?
Ouais, qu'ils arrêtent de faire de l'acting un peu, les acteurs.
Allez, prochaine news.
Lionsgate prépare une série animée Twilight. Et ça, ce serait pas Lucas qui nous parlerait de ça?
Oh, je suis sûr qu'il en est ravi.
Robert Pattinson, en voilà un acteur qui vaut le détour.
Et il a pas de problème avec Pattinson, c'est son pote.
Ah, on parlera peut-être de Batman un jour, ça peut être un sujet marrant, il y a beaucoup à dire. Mais Twilight, pour l'instant, hein, une chose à la fois. On est 12 ans après la fin de la saga au cinéma, et l'univers de Stephanie Meyer s'apprête à revenir, cette fois-ci, sur le petit écran. Et donc Bella et Edward seront bientôt de retour, ça se confirme, avec plus de 3 milliards de dollars de recettes réparties sur 5 films. 3 milliards, oui, c'est un peu moins que le prix de revente de LucasArts et Lucasfilm. Lionsgate a touché le jackpot grâce au phénomène Twilight. L'adaptation des romans de Stephanie Meyer, publiée entre 2005 et 2008, avec Kristen Stewart et Robert Pattinson, hein, évidemment, les deux acteurs les plus blancs possibles, connu un grand succès public, si bien que 10 ans après, les films sont sortis entre 2009 et 2012, Lionsgate veut continuer d'exploiter le filon. On a ainsi appris récemment que la branche TV du groupe comptait tourner prochainement une série TV dérivée de cet univers vampirique, sans donner plus de précisions. Michael Burns, le vice-président du groupe, vient d'annoncer lors d'une conférence qu'il s'agirait d'une série animée comment on prononce ça avec un accent français?
Variety.
On va de l'avant avec Twilight, avec cette série d'animation, car je crois qu'elle intéresse beaucoup de monde. Et ça, c'est sûr, toutes les ados de 12 ans vont adorer.
J'adore cette quote, avec Twilight, on va de l'avant. Bah, bien sûr.
Mais oui, hein, c'est pas du tout un retour à combien, 12 ans en arrière? Oh bon sang. Ah oui, le premier
même
roman
plus,
en 2005
plus.
Mais c'est si vieux, je me rendais pas compte que c'était si vieux. Oh là là, on ne rajeunit pas, hein. Et bien, donc, parmi les autres priorités du studio dont on parle, il cite également la saga John Wick. Ben oui, évidemment, elle aussi déclinée du cinéma au petit écran via la série The Continental et poursuivie en parallèle des films d'action principaux avec Keanu Reeves via des spin-offs. On attend par exemple Ballerina avec Ana de Armas. Pour l'instant, cette série Twilight n'a pas de date de diffusion et pour cause, ni ses showrunners, ni ses auteurs, ni ses comédiens de doublage n'ont été annoncés. Il y a bien eu des rumeurs de casting, mais c'était avant de savoir qu'il s'agirait d'un show animé.
Ah, moi, je suis content d'apprendre cette news, Lucas. C'est la dernière fois que j'ai pu voir un film de Twilight au cinéma. Bah, Sarah m'a dit plus jamais. On y avait été avec Quentin, Violette, Sarah, les copains, quoi. Et Quentin avait ramené des bières et j'ai passé mon temps à descendre les canettes pendant le film et à lâcher des vannes toutes pourries. Ils m'ont dit plus jamais ça. Et du coup, je suis garanti de plus aller voir de productions liées à Twilight. Donc, on sait jamais. Si la production du dessin a un côté Rick et Morty, moi je dis ok. Je veux qu'il fasse un remake animé de Twilight avec le character designer de Rick et Morty.
Mais je sais pas, un scénario barrant qui parle de vampires, on a déjà plein d'épisodes de Buffy qui sont bien, non ? Pourquoi faire ça avec du Twilight ?
Parce moi, ce que je comprends pas, c'est l'aspect animé. C'est pas du tout la. J'ai l'impression que c'est pas du tout la cible que les amateurs de Twilight. Ne sont pas des grands amateurs de séries animées.
Oh, ça dépend, hein. T'as quand même des shoujo qui sont adaptés en manga, ça marche pour les filles. Ouais, je peux dire que les histoires de vampires, chez les gamines de 12-14 ans en ce moment, ça marche, hein, dans les repas de famille là, en ce moment.
Mais les gamines de 12-14 ans, elles connaissent pas.
Non,
elles étaient pas nées.
T'inquiète pas, il y a une vraie ébullition en ce moment sur les trucs. Elles lisent tous les trucs de vampires. Donc si à un moment donné, il y a des dessins animés autour de ça, ça va marcher. La vibe revient en fait. Il y a beaucoup de trucs là-dessus. Et elles poncent les vieux trucs. Hein, Vampire Diaries et tout ça. C'est redevenu hype chez les jeunes. Donc je le fais en mode daron là vraiment, mais. Ouais, c'est les années 80 qui reviennent pour nous. Là, c'est les années 2000 qui viennent pour les jeunes, tu vois. Ouais.
Moi, je pense que si ils prennent un style d'animation assez sombre, il y a moyen de faire quelque chose avec les vampires. Après, Twilight, ça a jamais été très horrifique. Hein, mais l'animation, justement, ça permet une liberté qui peut donner un ton qui est cohérent. Après, c'est vrai que c'est pas une saga qui m'intéresse énormément. Hein.
Non, c'est sûr que c'est
une caste là pour le coup. C'est l'écriture, vraiment, ça m'a jamais touché, Twilight, moi-même. Hein.
Je vais juste faire. C'est une vanne, hein. Ne le prenez pas sérieusement, mais je me demande comment ils vont le wokiser parce que faire changer le caste de vampire tout blanc et le justifier après, ça va être rigolo parce qu'avant, ils avaient fait des loups-garous pour les Mexicains. Donc,
les vampires étaient noirs aussi dans Twilight.
Oui, c'est vrai, il y en avait.
Il y avait, en fait, c'est parce que c'est des êtres humains transformés en vampires.
Je suis désolé, je me suis fait sortir après le premier film, hein, je vous le rappelle. J'ai pas vu toutes les sortes de vampires qu'ils ont fait dedans. Moi, ils jouent au baseball sur Doom News où j'en suis, hein, c'est tout. C'est arrêté.
Moi,
là.
Concernant une petite anecdote perso, concernant les Twilight, je sais que quand le dernier était sorti, je les avais tous regardés avec ma famille, les quatre premiers. Et donc, quand le 5 sort au cinéma, ma famille va le voir, mais sans moi, parce que je ne sais plus pourquoi, je n'y ai pas su y aller. Et donc, j'y vais quelques jours après au cinéma avec ma grand-mère. Et on devait donc aller voir Twilight 2, 5 partie 2, enfin 4 partie 2, enfin, bref. Et ma grand-mère va chercher les places début d'après-midi, et puis on y va plus tard voir le film. Et on s'installe, le film commence, et puis là, je vois une voiture qui roule dans le désert, je fais « Ah, c'est bizarre, mais ok, pourquoi pas
?»
C'est vrai que la mère de Bella, elle est dans le Texas, donc ok. Et puis je vois écrit en grand « Hugh Jackman », et je fais « Tiens, c'est bizarre, je savais pas qu'il était dans Twilight, celui-là !» Et puis en fait, elle s'était trompée, elle avait acheté des places pour Real Steel, un film avec des catcheurs robots.
Hugh Jackman se bat à la boxe contre des robots.
C'était bien meilleur que toi, Light, sachez-le. C'est pas plus mal.
C'est dur, ta mamie, c'est une génie. Je l'embrasse là où elle est. Elle t'a sauvé de Twilight pour remplacer ça par Hugh Jackman contre des robots. Il avait même pas de griffes pour les trancher.
C'était très drôle.
Mais ça arrive quand les vampires dans ce film ? Je comprends pas. trêve de vampires. On passe à la suite. Mehdi, car on va parler de X-Files.
Mmh, c'est vrai. Voilà.
Le créateur de X-Files valide la nouvelle.
Vous n'êtes pas des viewers de X-Files, vous.
Alors, il y a une nouvelle version qui arrive. Il y a du X-Files et Ryan Coogler, le créateur de la série, valide la nouvelle version. Il est curieux. Il dit, je suis curieux. Moi.
Chris Carter confirme qu'il ne sera pas appliqué dans cette série plus inclusive.
Ah.
Enfin, si, juste en tant que pom-pom girl, s'exclame-t-il, pour montrer son soutien à son successeur. En mars 2023, Chris Carter révélait qu'il ne participerait pas donc au revival de X-Files, conçu par Ryan Coogler, le gars qui est derrière Black Panther. S'il disait ne pas être impliqué et laissait entendre qu'il s'agirait d'un reboot, donc sans Gillian Anderson ni David Duchovny, en agent Dana Scully et Fox Mulder, il faisait preuve d'une certaine curiosité envers cette nouvelle version qu'il qualifiait de réinvention. Auprès de la radio canadienne On the Coast, il disait aussi avoir tout juste parlé à un jeune homme, Ryan Coogler, qui va remettre sur pied X-Files avec un casting diversifié. Donc, il va avoir un sacré boulot parce qu'on a déjà couvert beaucoup de choses dans le domaine du paranormal. Seul moyen de s'en sortir, selon lui, X-Files reposait sur une conspiration centrale. Mais désormais, il y a des conspirations partout. Je pense qu'il faudrait en faire une toute autre série. Lancée il y a 30 ans, puis reprise en 2016 et en 2018, avec les saisons tardives 10 et 11, faisant revenir Mulder et Scully, X-Files va donc être chamboulé par le réalisateur de Fruitvale Station et Creed, en dévoilant cette semaine une exposition à Los Angeles. Chris Carter en a profité pour faire le point auprès de WAP. « Je ne ferai pas partie de ce reboot », commence-t-il. Enfin, seulement en tant que cheerleader. Vous savez, ils n'ont même pas besoin de mon consentement, puisque ce sont la Fox et Disney qui détiennent les droits de la série. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais je suis honoré qu'ils soient venu m'en parler, pas pour avoir ma permission, mais mon soutien. Je ne devrais pas en parler selon Disney, mais oui, j'ai bien parlé du projet avec Ryan Coogler. Il aimerait avoir une distribution plus diversifiée et il a de bonnes idées. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, surtout que ce n'est pas la série la plus facile à écrire, vu son sujet. Ce n'est pas comme Law and Order, avec son enquête qui change cette semaine-là. Vous devez imaginer des épisodes « What if ?». Ça peut être très dur à mettre en place. Interrogé sur sa propre envie de poursuivre l'aventure X-Files, Chris Carter reste prudent. Oh, si David et Gillian ont envie de repartir pour un tour, oui, ça m'inspirerait probablement. Vous savez, quand on me demande les raisons de son succès, je réponds toujours que c'est grâce à eux. S'ils n'avaient pas leur relation particulière et ses acteurs pour interpréter Mulder et Scully, la série n'aurait pas eu autant de succès. Moi, perso, X-Files, je n'ai jamais regardé. Donc le fait que ça revienne en reboot, ça ne m'intéresse même pas du tout, en fait, perso. Sachant qu'en plus, ça a l'air d'être assez différent. Ils veulent en faire une série un peu, même carrément, comme le créateur le dit, une autre série. Moi, ça ne me tente pas du tout. Mais toi, Jack, je vois que ça te picote un peu, là.
C'est la première série que je me suis acheté avec mon propre argent en intégrale. J'ai maté l'intégrale d'X-Files 3 fois. J'ai même vu la série qui est revenue après la saison 11 d'X-Files, qui est dure, mais drôle. J'ai noté plusieurs trucs dans cet article, mais dit « Ryan Coogler va remettre sur pied X-Files ». X-Files n'a besoin de personne pour être remis sur pied. Elle n'a jamais trébuché. Elle allait très bien, l'épisode allait ranger dans des paquets DVD, vous pouvez la mater. Voilà, c'était les années 90, c'est une autre époque, vous l'acceptez pas, c'est là. On a aussi dit, je pense qu'il faudrait en faire une toute autre série. Oui, si vous voulez faire des enquêteurs sur du paranormal, faites une autre série, X-Files. Et comme le dit Chris Carter, ça repose essentiellement sur David Duchovny et Gillian Anderson, qui sont des acteurs qui ont dépassé le cadre de leur propre série. Aujourd'hui, même les Simpsons en ont fait des personnages dans un spécial Halloween. Ils chassent Monsieur Burns, qui est un extraterrestre. Et ça marche, on ne dit pas, c'est X-Files. Tu vois David Duchovny, tu vois Gillian Anderson, tu comprends ce que c'est. L'histoire a dépassé la série. Donc je vois pas pourquoi ils veulent s'attaquer à ça. Et bon, je faisais des vannes sur Twilight juste avant avec la wokisation du truc, mais là ils disent clairement quoi, on veut
diversifier le
cast. Bon,
leur terme, c'est exactement une série plus inclusive. Et ils disaient quoi d'autre?
Ouais, exactement.
Une réinvention.
Mais faites une autre série. Les X-Files dans les années 90, la théorie du complot, c'était bien. C'était une époque juste post-guerre froide où on était en train d'avoir des Russes contre des Américains avec des extraterrestres en fond. C'est ça qui faisait le sel du truc. Je pense pas qu'aujourd'hui, effectivement, tu puisses revenir là-dessus. Même si y a des documentaires qui reviennent en ce moment sur les nouvelles théories sur les ovnis et tout ça. Ce qui est assez sympa de regarder. Ça fait des bonnes siestes. Mais je vois pas. Je vois pas pourquoi ils veulent faire ça. En fait, c'est même pas une problématique de diversification de cast. Tu peux avoir un cast diversifié. Mais en réalité, si tu prends pas David Duchovny et Gillian Anderson, tu fais pas X-Files. tu fais une autre série. Et puis, t'embêtes pas les gens qui vont râler parce qu'on est encore une fois en train de saboter leurs souvenirs. Et puis, tu perds pas de l'argent à essayer de faire venir des jeunes comme Mehdi qui en ont rien à foutre d'X-Files.
Ben surtout que je n'irai quand même pas voir le revival. Donc
Ben non, parce qu'il va regarder l'animé de Twilight pendant ce temps-là. Donc, il ne peut pas tout faire, Mehdi. Laissez-le.
Mais...
Lucas, lui, regardera Avatar de James Cameron. Et puis voilà, enfin, qui va regarder X-Files, le remake version Wish ?
Ben moi, j'ai vu tout X-Files, celui qui existe déjà aussi. Et j'irai pas, effectivement, pour avoir un remake, reboot de plus. Si le but, c'est juste de faire vaguement la même chose en actualisant les thèmes et en mettant un cast plus diversifié. Alors oui, je suis d'accord avec toi, autant ne pas faire X-Files. Surtout que tu dis que X-Files va toujours bien, mais X-Files a eu une histoire compliquée. Hein. On se rappelle, bah justement, quand Duchovny il est parti, ça n'allait plus. C'était compliqué, c'était dur. Et donc là, aucun des deux qui revient, enfin, ou alors ils vont faire un caméo juste pour essayer de ramener des fans. On sait comment c'est produit, en fait. On connaît trop Hollywood et c'est difficile de ne pas se méfier d'eux quand ils font des annonces pareilles pour dire qu'ils vont rebooter un truc qui a encore une certaine popularité, laquelle je ne sais pas. Hein, les gens qui sont plus jeunes que moi, il n'y a personne qui connaît X-Files, hein, je pense.
Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais même X-Files, en termes de budget, ça tenait sur rien du tout. Et aujourd'hui, une des choses qui fait la magie de la série, c'est que ça a été fait dans les années 90, où il n'y avait pas tellement de CGI. C'était énormément de travail de costumiers, de make-up artistes, de techniciens qui faisaient que ça tenait. Et tu regardais la série, peut-être qu'aujourd'hui il y a des effets qui peuvent faire un peu vieux, mais quand tu la regardes dans son jus, c'était un tour de maître d'arriver à faire tenir une série comme ça chaque semaine dans la télévision. Et ça a même créé tout un genre de l'horreur, science-fiction à l'époque, qui a commencé à être de plus en plus diffusé. Il y avait toute la vibe, hein, avec notamment Buffy pour les vampires, des trucs un peu frissonnants, plus teenage par exemple, j'en passe, mais je vois pas comment ils peuvent réussir à reproduire le succès de tous ces paramètres aléatoires qui ont bondi au cœur de cette série. Je comprends pas. Je vois pas.
Par contre, quand même, point positif, Ryan Coogler, c'est quand même un bon.
Bah, moi, je suis plutôt d'accord. Oui, j'ai bien aimé ces films. Mais alors, en série, j'en sais rien. C'est pas exactement le même métier, je pense. Donc, il y a moyen qu'ils se foirent parce que tu peux être un super réal de cinéma, arriver en TV où tout doit être fait vite, tout doit être fait avec moins de moyens et te planter. Hein.
Moi, je pense que sur la jaquette de la série, ils devront mettre réalisé par Ryan Coogler. C'est quand même un bon. Pour rassurer les gens. Quote pilote podcast,
sachez,
tu vois.
Après, il a rien fait en termes de série pour l'instant. Il n'a fait que des films. Et encore pas non plus énormément, quoi.
Bah, c'est génial. Il commence avec des grandes idées. Super. Bon. X-Files, c'est fait.
À la watchlist,
ouais,
maintenant.
X-Files, Young Sheldon, Twilight, Avatar, c'est fait. Il est grand temps de passer à la watchlist. Mehdi l'a dit, je le redis. Lucas, tu le dis ?
Oh, il est temps de passer à la watchlist.
Ah, travail d'équipe, j'ai sabordé mon tapis sonore, voilà, c'est dit. Moi, un poids pour la réalisation de cet épisode. Bon, les amis, on va passer à nos watchlists. On a regardé pas grand chose cette semaine, j'ai l'impression qu'on était tous un peu occupés. Mais je propose à Mehdi d'ouvrir le bal. On fait un sandwich, je vous propose un sandwich Mehdi, Lucas, Jack. On le fait dans ce temps-là.
Ça va, c'est très bien pour moi.
Bah, c'est à toi.
Ça te va, Lucas?
Oh bah, quoi?
On me demande mon avis. J'étais pas prêt.
Non, parce que moi, je suis ce que vous dites, mais un sandwich Mehdi, Lucas, Jack, ça veut dire que c'est Mehdi au-dessus du sandwich. C'est-à-dire que c'est la partie ronde du burger, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
C'est quoi, t'as dit que c'est parce que je suis gros?
Légèrement enveloppé.
Bon, un peu de sérieux quand même ici. Moi, cette semaine, je vais vous parler de mon coup de cœur de notre dernier calendrier des sorties séries du mois. Et ce n'est d'autre que Meurtre et autres complications. Alors, Meurtre et autres complications, c'est une série policière à énigmes, enfin, une série dramatique à énigmes, un peu comme le film À couteau tiré, ou tous les films inspirés des livres de...
Ou comme tous les films.
Comment ou comme tous les films. Comme
ça ressemble à tous les films. C'est... Agatha Christie.
Voilà, c'est elle que je cherchais. Genre, Meurtre sur le Nil et compagnie. Mais donc ici, l'histoire se passe sur un paquebot de luxe. Un homme très riche du nom de Laurence Collier va prendre sa retraite. Et il invite donc tout un tas de gens en croisière pour fêter ça. Sauf que dans le tas, il y a une dame, une jeune fille même, une jeune en fait. Enfin, elle n'est pas si jeune que ça.
C'est une dame ou c'est une fille ?
Elle a dans la vingtaine. Donc c'est une femme. Imogen, qui est donc en fait la meilleure amie de la fille de Laurent Scollier. Petit problème, le premier soir, un meurtre a été commis. Et deuxième problème, Imogen était rentrée peu de temps avant dans la chambre où le crime avait été commis. Mais quand elle était rentrée, il était toujours bien vivant, le décédé futur. Donc c'est pas elle la coupable. Heureusement pour elle, c'est un certain Rufus Cottesworth qui va mener l'enquête. Et lui, il sait qu'elle n'est pas coupable. Alors, pourquoi est-ce qu'il sait qu'elle n'est pas coupable ?
Parce qu'il a lu le scénario.
Ça, on ne le sait pas trop. Je pense qu'il a lu le scénario. Et surtout qu'en fait, ils ont un passif, eux deux. Ils se connaissent. Et donc, ils vont mener l'enquête ensemble. Ils vont tout faire pour trouver le coupable, pour éviter qu'Imogen, quand Interpol va arriver, elle se fasse arrêter parce que sur les caméras, c'est la seule qu'on voit rentrer dans la chambre avant le décès du futur cadavre. Donc, sauf, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, Imogen, elle ne porte pas trop dans son cœur le cher Rufus parce qu'il a enquêté dans sa vie sur la mort de la mère d'Imogen, mais on comprend au fur et à mesure de l'épisode et de la série qu'en fait, il n'a pas trouvé qui était le coupable. Et donc, elle lui en veut pour ça. Au casting, on va retrouver dans le rôle d'Imogen Violette Bean. Alors, vous ne la connaissez pas, moi non plus. Elle avait joué apparemment dans Flash. Mais moi, je n'ai pas vu Flash jusqu'au moment où elle y était, du moins. Et surtout, en tête d'affiche, on va retrouver Mandy Patinkin, qui est un grand acteur, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai adoré dans son rôle de Jason Gaiden dans les premières saisons d'Esprit Criminel. Sauf que maintenant, il a de la barbe. Alors,
Gaiden, ok. Ouais.
Ouais. Okay. Il a aussi joué dans Homeland, apparemment, où il a fait pas mal d'épisodes. C'est un gars qui a quand même un joli petit CV, où il a fait plein de choses. Il a fait des séries, il a fait des films, il a fait du jeu vidéo. Il a fait des séries d'animation, mais il a fait aussi énormément de scènes sur Broadway et au théâtre. Donc, c'est un gars, il a de l'expérience, il est bon dans ce qu'il fait. Et c'est lui qui... La série a été créée autour de lui. En fait, le projet a été lancé en 2022 pour faire une série un peu à la Agatha Christie, comme les auteurs le disent, avec cet acteur-là dans le centre. Et d'ailleurs, derrière cette série, on retrouve deux pas trop connus, parce que c'est deux gars dont c'est la première réalisation. C'est Mike Weiss et Heidi Cole McAdams, où ils ont donc tous leurs deux la première fois qu'ils sont réalisateurs, mais ils avaient déjà été scénaristes sur certaines œuvres. McAdams, il a été scénariste sur les trois dernières saisons de The 100, et Mike Weiss, il a été scénariste sur Chicago Police Department et la saison 5 et 6 de Mentalist. Donc, c'est des petits jeunes qui n'ont pas trop d'expérience, mais de moi, ce que j'ai vu, ils sont plutôt bons. En tout cas, le premier épisode que j'ai regardé, c'était génial. Donc, moi, je recommande ça chaleureusement. Si vous êtes fan, enfin, si vous avez bien aimé le film À couteau tiré...
Films du cinéma.
Ou tous les films. Franchement, vous allez aimer ça. Moi, je recommande ça très chaleureusement.
Je le note, Mehdi. Je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, moi, je suis abattable au Cluedo, donc dès qu'il faut mener une enquête sur un bateau, c'est parti. Hein.
Ouais. C'est un truc qu'il va pas y avoir de mystère, plein de rebondissements. Donc,
puis les acteurs ont lu le scénario, donc on sait déjà où ça va.
Waouh. Eh ben, on peut passer du mystère à la frontière finale, c'est-à-dire l'espace. Moi, je voulais vous parler de Babylon 5, qui est une série créée par J. Michael Straczynski. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, parce que plus récemment, il a créé Sense8, cette série de deux saisons qui s'est fait annuler par Netflix et qui a eu quand même un film parce que les fans étaient vraiment pas contents du tout, dont moi, hein, je tiens à le préciser, j'adore Sense8, et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à Babylon 5, qui était donc la première série qu'il produisait, créait, et voilà, qu'il a beaucoup écrit. Il a écrit la majorité des saisons 1 et 5 et l'entièreté des autres saison. Donc gros scénariste le gars sur un truc un peu compliqué parce que évidemment science-fiction américaine, on pense à Star Trek et effectivement il y a beaucoup de liens puisque ça se passe dans une station spatiale, Babylon 5, c'est le nom de la station, qui est loin de la Terre où il y a des conflits entre différentes races extraterrestres et avec des cultures et des spiritualités différentes. Bref, si vous êtes fan de Star Trek, ça vous rappelle forcément Deep Space Nine et c'est normal. Les producteurs de la Paramount se sont dit que plagier la bonne idée de Straczynski, c'était la chose à faire. Et donc après qu'ils lui auraient proposé le projet, bah, ils ont créé un Star Trek qui ressemblait au truc qu'ils venaient de refuser. Sauf qu'il a réussi à faire produire Babylon 5. Et donc la différence fondamentale, elle est pour moi avant tout dans le budget, vu qu'il est allé chez les networks et que donc Babylon 5 s'est fait avec des effets en 3D. Donc en 3D, de 94 à 99, du coup, la dernière saison, fin de diffusion 99. Et donc on est sur la 3D des années 90. Bon, j'ai pas besoin de trop vous expliquer. Normalement, vous en avez déjà vu, la PlayStation 1, tout ça, vous situez.
Je suis déjà en train de me rappeler du bon vieux temps de Xena et de Hercule avec cette magnifique 3D dans les séries.
Et oui, donc ça a moins bien vieilli qu'une série comme Star Trek qui utilisait des maquettes principalement pour les vaisseaux, etc. Et puis qui a envoyé des super remasters. Babylon 5, un remaster, vous pouvez vous l'obtenir en Blu-ray si vous voulez, en 1080p, Full HD, bien sûr, mais tout n'a pas été refait puisque apparemment ils avaient encore des modèles 3D, mais ils n'ont pas réussi à retexturer parce que les logiciels étaient trop vieux ou qu'il y a des backups qui ont été perdus. C'est une histoire compliquée ce remaster, mais c'est pas boche. En tout cas, tout ce qui était sur pellicule est sympa et surtout c'est pour l'histoire qu'on regarde ce genre de série parce que c'est beaucoup d'intrigues, de guerres, de conflits interpersonnels et de questions philosophiques, tout ce qu'on aime dans la science-fiction. Moi je recommande Babylon 5, j'ai pas fini, je suis dans la saison 2 et ça commence à devenir très très intéressant. Puisque bah, comme Deep Space Nine, on explore un peu plus l'aspect des conflits et de la guerre. Et que voilà, c'est un sujet universel hein, qui nous traverse depuis la fin des temps. Et bon angle pour en parler, Babylon 5. Est-ce que vous, les œuvres de Straczynski, ça vous parle un tout petit peu ou juste inconnu pour vous?
Je ne connaissais pas du tout, j'avais entendu parler, bien sûr, de nom de Sense8, mais Babylon 5, je n'en avais jamais entendu parler.
Ouais, effectivement, Sense8, déjà presque 10 ans, hein, Lucas, ça date de 2015, un des grands flops de Netflix, non pas pour la série, mais pour l'utilisation que Netflix en a fait, parce qu'il était un truc générationnel, ils l'ont jeté, mais... Alors, j'ai jamais maté Babylon 5 et j'avoue que j'ai jamais été trop fan des séries qui se passent dans l'espace. Star Wars, Star Trek, c'était pas mon truc. Par contre, si ça se passait à pied, c'était cool. Stargate, j'ai bien aimé. Tu vois, il y avait qu'une porte à traverser, on était au sol. Je me suis toujours... ça, c'est un truc vraiment personnel, mais ça remonte à mon enfance. Mais j'ai vécu au-dessus de chambres froides quand mon père travaillait dans un magasin de surgelés. On gardait l'appartement et je me suis rendu compte que le bruit des chambres froides, c'était le bruit de tous les habillages de films de science-fiction des années 90. Et bah, du coup, moi, je m'endormais quand je regardais ces films-là. Donc, ça me rappelait quand j'allais au lit. Donc non, j'ai pas
mais
trop
accroché
à ça.
Peut-être que Babylon 5, c'est l'occasion de commencer parce que c'est une série assez sédentaire où je pense qu'on n'a pas le son en permanence comme dans les vaisseaux dans Star Trek et qui est effectivement... un frigo. Ouais, c'est très sédentaire dans le sens où ils sont toujours dans leur station, ils parlent beaucoup, ils discutent. Ils pourraient être sur une planète, mais bon, il se trouve qu'ils sont sur une station. Il y a des scènes dans des vaisseaux, voilà, absolument incroyables, avec des incrustations. Du coup, c'est de la 3D, on incruste leur visage dans des costumes faits voilà, sur ordinateur. C'est un petit retour dans le passé, mais qui est intéressant parce que voilà, si vous aimez l'histoire de la TV aussi, Babylon 5, c'est le genre de série qui est connue des côtés sœurs en fait. Star Trek, c'est super célèbre, ça a gagné plein d'Emmy. Babylon 5, c'est un peu moins célèbre, même si ça a aussi gagné des récompenses. Mais ça a eu une influence sur les gens qui ont fait de la télé par après. Comme Star Trek d'ailleurs, on s'en inspire et c'est marrant de regarder ces vieilles séries et de voir qui a copié, je trouve. En tout cas, moi ça m'amuse.
Coup de cœur du moment pour Lucas, il est de retour dessus.
Et toi, Jack, tu vas nous parler de Shogun, dont on devait parler normalement aujourd'hui.
C'est ça.
Donc on en parle quand même un peu.
Ouais, comme je vous l'ai dit, on en reparlera la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours.
Dans 2 semaines.
Mais, un petit mot quand même pour vous chauffer là-dessus, parce que pour le moment, j'ai vu le premier épisode dans le cadre de Pilote. Et j'avoue que j'ai du mal à ne pas regarder l'épisode 2. Hein. J'ai fort fort envie de me faire spoiler, mais je vais rester dans le côté théorie et anticipation pour vous en parler dans le prochain épisode de Pilote. Donc Shogun, ça vous parle de quoi ? Ah bah ça vous parle du Japon féodal. On est genre en 1600 et quelques. Là pour le moment, les soldats japonais se battent à coups de katana. Et je suis toujours dans ma vibe de manga en ce moment. Je dis toujours l'habitant de l'infini. Et donc je me suis dit, tiens, sympa, on va encore aborder l'histoire du Japon féodal. Ça va peut-être être violent, comme souvent je le dis dans les mangas en ce moment. Ça sera pas trop édulcoré comme on a l'habitude de le voir dans tous les grands films qui ont refait du cinéma avec des grandes scènes d'action à la Jackie Chan ou des trucs comme ça, où en fait finalement t'as des histoires d'amour sur fond de bagarre. C'est pas vraiment la réalité du truc. Alors ça reste du Hollywood, c'est pas vraiment la réalité du truc, mais par contre, dans le côté ça va être cru, ça va être violent et les gens ils vont pas se faire du bien, ça va être là. Ça m'a fait les mêmes sensations par moment que j'ai eu avec The Shield, qui est une de mes séries préférées, où je peux avoir envie de vomir et de pleurer sur une même scène. C'est violent, le Japon féodal. Je vous invite pas, tu sais, on te demande toujours quand t'es en primaire, en cours d'histoire, quelle époque souhaiterais-tu découvrir si tu pouvais remonter le temps ? Dites pas le Japon féodal. Votre taux de possibilité pour un Européen de finir en ramen bouilli, il est quand même fort probable. Donc, en tout cas, l'histoire, ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler de marins anglais qui vont arriver au Japon en plein conflit entre plusieurs seigneurs. Et donc, ça va être un petit peu le choc des cultures, le poids des mots et les coups de katana. Donc, ça va être bien. Petit point fort pour moi, c'est le casting de la série, tant pour le côté casting d'acteurs japonais que pour les occidentaux. J'ai été très très surpris d'y retrouver Nestor Carbonell. Alors Nestor Carbonell, qui est-ce pour ceux ce... Mais oui, c'est qui ? C'est ça la question, c'est qui ? Vous pouvez le retrouver dans pas mal de séries qui ont quand même très très bien fonctionné. Il a notamment joué dans Lost, c'est pas rien. Il a joué dans Bates Motel, ça c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il joue le shérif de la ville qui va fricoter un peu avec la maman de Norman Bates et ça se passe mal. Il a joué dans The Dark Knight également. Il est un petit peu partout cet acteur, en tout cas dans pas mal d'œuvres des années 2010 qui ont bien fonctionné. Et moi je l'ai vu là-dedans, j'ai fait « Oh, les beaux yeux noirs, serait-ce lui ?» Parce que là il joue un Portugais, émigré espagnol, qui se retrouve au Japon avec une grosse barbe de 50 jours. Tu le reconnais pas tout de suite habillé en Jack Sparrow. Donc, on a maté l'épisode avec Sarah au même moment. On s'est dit, tiens, des yeux noirs de jet, des cils très très noirs. Ça ne peut être que lui, effectivement. Donc on était très contents de le retrouver. Ça joue bien. Et puis, une claque visuelle, quoi. Bon, j'en dis pas plus, sinon je vais te donner déjà tout mon avis pour la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Et voilà, Shogun, c'est déjà disponible sur Disney+. Et puis, moi, je ne sais pas si ça respecte les fêtes de Pâques, mais en tout cas, ils continuent de le diffuser semaine après semaine. Donc, ils ne s'arrêtent pas pour des fêtes chrétiennes au cours des diffusions. On a une petite pensée pour Invincible qui, dès qu'il y a une fête, c'est plus programmé. C'est dommage.
Ouais. C'est très triste. J'en ai marre d'attendre.
Ouais.
On veut de la violence, nous.
Bon, on va avoir de la violence dans quelques instants. Ça va être aussi très triste. On va passer maintenant, les amis, au pilote de cette semaine, c'est-à-dire Dragon Ball Z. On vous replante le décor si vous nous écoutez et que vous arrivez à ce moment-ci du podcast, bizarrement, à presque 3/4 d'heure d'émission, vous commencez par là. On va vous parler de Dragon Ball Z, car vous n'êtes pas sans savoir que ce 8 mars, Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball Z, mais d'autres séries de légende également, c'est-à-dire Dragon Ball, parce qu'il a bien fallu commencer l'animé par quelque part, par l'œuvre en manga, c'est-à-dire Dragon Ball tout court, mais il a aussi fait Dr. Slump, Sandland. Moi, j'en reparlais aujourd'hui quand j'ai écrit un post sur l'atelier de l'apprenti mangaka. C'est aussi le chara-designer des jeux vidéo Dragon Quest. Il a une grosse, grosse influence sur la pop culture asiatique. Oui, Mehdi ?
on l'oublie aussi, mais il a aussi fait les chara-design, il me semble, du jeu Blue Dragon.
Effectivement, il est aussi là-dessus. Il a vraiment, donc, une, comme je le disais, une grosse influence. En fait, c'est les années 90 à Dragon Ball. Enfin, ça commence dans les années 80 à être publié en animé. Une fois que ça arrive en France, toute la francophonie est touchée. Et on devient en fait les deuxièmes consommateurs de manga après le Japon à partir de ce moment-là. Et moi, je m'en souviens, ça a marqué vraiment toute mon enfance. Que ce soit sur les sorties au marché, je ne pouvais pas m'éviter de demander à ma mère de m'acheter un t-shirt frelaté de Dragon Ball. C'était sans doute pas un produit officiel, mais il y en avait partout. On avait des compiles CD de techno avec les personnages dessus, donc ça n'avait rien à voir. Tu pouvais écouter vraiment de la techno allemande, mais tu avais sur la jaquette Son Goku, Son Gohan et tous les autres. Donc let's go, on prenait. C'était aussi plein de figurines, c'était aussi des bagarres pour sauver le monde dans la cour de récré. C'était vraiment beaucoup de choses. Et des jeux vidéo aussi en pagaille, je suis un gros geek. Ouais. Et c'est notamment aussi grâce à Dragon Ball. Je me souviens, pour ceux qui sont en Belgique, mon premier jeu vidéo Dragon Ball, je l'ai acheté à Durbuy. À Durbuy, la plus petite ville du monde. Il n'y a pas un magasin de jeux vidéo. Il n'y en a jamais eu. Mais il y avait une librairie. Et dans la librairie, je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les magazines qui étaient là, il y avait une cartouche Super Nintendo de Dragon Ball. Je sais plus laquelle c'est, c'était la jaquette bleue où il y a Son Gohan dessus et ça va, tu peux faire ce jeu de baston là, ça 1v1 et ça va jusqu'à l'arc de Cell et avec le jeu t'avais en plus le tome 1 du manga. C'est comme ça que j'ai commencé à lire Dragon Ball. J'ai perdu le tome 1, je suis dégoûté. C'est vraiment un gros souvenir que j'avais, mais voilà, moi ça m'a marqué. Je crois que j'ai commencé Dragon Ball, c'était en 94, j'avais 6 ans et alors maintenant, je suis totalement décroché, qu'on se le dise, parce que, enfin non, je suis accroché à mes souvenirs, mais Dragon Ball Super, autant dire que je l'ai maté, hein, à chaque fois je me dis, ça n'a jamais existé, à chaque fois que je termine un truc, et j'ai pas été voir le dernier film, Dragon Ball Super Héros, c'est ça, j'ai abandonné, j'ai perdu espoir. Mais voilà, on a vu la news ce matin, je vous l'ai envoyé directement, j'avais le seum.
Ouais. Après, petite rectification, c'est le 1er mars qu'il est décédé, mais sa famille ne l'a annoncé qu'aujourd'hui.
C'est ça.
Le 8 mars. Moi, perso, mon passif avec Dragon Ball, c'était surtout d'abord mon papa qui m'avait acheté l'intégrale des mangas. Et donc, moi, je les ai dévorés parce que c'était le premier manga que je lisais et c'était une dinguerie. C'était beaucoup trop bien. Mais par contre, je n'avais jamais regardé l'animé. Et aussi, autre grand pan de ma vie Dragon Ball, c'était les jeux Budokai Tenkaichi sur PS2. Et qu'avec Lucas, on a passé des étés à les poncer, on effaçait une sauvegarde, on recommençait à zéro et on essayait de le terminer le plus vite possible, de débloquer tous les personnages, etc. De faire l'histoire au complet. On faisait que ça. Et on a passé des étés géniales sur ça. Donc c'est sûr qu'il a quand même marqué mon enfance. Même si l'animé Dragon Ball, moi, ça, je ne l'avais jamais regardé.
J'ai juste un petit react à ça directement. Après, je te repasse la parole, Lucas. Mais moi, l'animé, c'est essentiellement par là que je l'ai découvert quand j'étais enfant. Parce qu'en fait, moi, je suis de la génération Club Dorothée. Que je le matais là-dessus. Et je me souviens de l'époque où cette Ségolène Royal m'a terrorisé tous les enfants de ma génération en proclamant cette célèbre phrase, mais que elle disait que c'était scandaleux, Dragon Ball, c'était de la bagarre, c'est de la violence, et c'est nul, ça devrait pas être servi à nos enfants, donc c'est complètement inutile. Et du coup, le Club Dorothée s'est fait supprimer grâce à elle. On a perdu Dragon Ball à la télé. Bon, heureusement, en Belgique, nous, ça a basculé sur Club RTL, donc c'est comme si rien n'est arrivé, mais quand même, ça... Pour ceux qui aiment le dessin animé là-dessus, ça fait un grand pincement au cœur. On attendait avec les copains, on sortait de l'école, on disait ouais, le mercredi après-midi, là, on va voir notre nouvel épisode de Dragon Ball, on va en reparler demain, on va se taper dessus en refaisant les scènes, ça va être bien. Rah, c'est dommage.
Et oui, c'est vrai que c'est un sujet où on sent qu'il y a quand même une petite différence de génération, je pense, Dragon Ball. Parce que quand tu commençais à lire en 94, nous, on n'était pas nés. Mais on a quand même commencé à lire très tôt. C'était mon premier manga aussi, Dragon Ball. Mais moi, j'ai découvert avec les rééditions, avec des meilleures traductions en plus. Donc ça m'a permis vraiment de voir des notes de traducteur, tu vois, sur les termes japonais exactement, comment ils étaient dans l'original, pourquoi ils ont fait ces choix de traduction. Il y a des très bonnes rééditions de Glénat qui coûtent un peu plus cher du coup, mais qui ont plein de notes intéressantes si vous êtes vraiment à ce point-là dans vos lectures et que vous voulez tous les détails. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai d'abord lu avant de regarder un petit peu. J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai vite compris, avec Dragon Ball aussi, comme avec beaucoup d'animés, que les fillers, c'était pas mon truc. Il y en a vraiment beaucoup, donc si vous n'êtes pas au courant, un animé, souvent, ça avance plus vite dans l'histoire qu'un manga. Et donc, l'animé est commencé à produire après, mais il rattrape le manga. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, soit on fait une pause, ce qui économiquement n'est pas forcément un très bon choix, soit on fait des épisodes fillers. Et donc on engage des scénaristes qui vont nous écrire des épisodes souvent pas terribles pour remplir des cases.
Si vous voulez en apprendre plus justement sur les fillers, n'hésitez pas à écouter notre épisode consacré à Bleach, qui
a une énorme victime. Il y a des saisons entières et qui sont vraiment pas bons, je les ai tous passés. Bleach, ça c'est l'inverse, c'est l'œuvre que j'ai découverte via l'animé et que j'ai jamais lu le manga, parce que Bleach, les musiques sont géniales. Ceci dit, les musiques de Dragon Ball, en version originale en tout cas, pas la version Dorothée, je les trouve incroyables aussi. Les versions Dorothée, c'est spécial. Il y a la nostalgie qui est là, mais c'est pas très bon, quoi. Musicalement, il faut être honnête.
Moi, je suis pas nostalgique des génériques de Dorothée. Non.
La quête finale, déjà, non.
Ah non.
Ils ont improvisé les paroles, je pense, parce qu'elle n'était pas finale, la quête, pas du tout. C'est le début de l'histoire. Et puis centrer Dragon Ball Z voilà, sur Sangohan, oui, si on veut. C'est subjectif, on va dire.
Quand même beaucoup, normalement.
Oui, à la base, c'est le
principe. Il y a une pause, si je me souviens bien aussi. Et c'est ça la différence entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est que Dragon Ball Z commence un peu plus tard, non ? Il y a quelques années entre les deux. J'étais toujours pas né, hein, donc je pose la question, je ne m'en souviens pas.
Moi, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un break, parce que, en fait, donc, la diffusion de l'anime a commencé au moment de ma naissance, c'était déjà vers 88, je crois. Et donc, Dragon Ball Z était déjà sorti en animé. Au moment où je découvrais ça, attends, je vais regarder ça. Je vous laisse continuer la conversation en attendant, mais je reviens avec des informations. Vous vous mettez sur le bas-côté de la route et vous sortez vos papiers, s'il vous plaît.
on réfléchit, on veut pas dire des bêtises. C'est important, Dragon Ball, pour nous, en vrai. C'est vrai que même des jeunes maintenant, je pense, qui doivent avoir 10 ans, peut-être un peu moins, ils découvrent ça et ils trouvent ça génial. Parce que Dragon Ball, c'est juste le shonen qui a défini tous les autres shonen. Et alors, il y a eu Hokuto no Ken avant, c'est vrai, qui est d'ailleurs une des inspirations de Dragon Ball. Toriyama l'a jamais caché. Oui, mais la force de Dragon Ball...
A eu plus d'impact sur les générations actuelles que Hokuto no Ken sur les générations actuelles.
Parce que Dragon Ball a justement réussi à s'adresser à tout le monde. C'est pas un truc avec des personnages qui se prennent au sérieux. Enfin, j'ai revu le début en série, j'ai lu le manga il y a longtemps c'est pas du tout sérieux, Dragon Ball. Le premier tome, c'est n'importe quoi. C'est une meuf de 16 ans qui trouve un mec de 12 ans qui croit en avoir 14, qui a une queue de singe dans les bois, qui sait pas ce que c'est une fille, et elle l'emmène à moto alors qu'elle sait pas conduire. Enfin, il y a rien qui va, en fait. Si on essaye de décrire la situation à quelqu'un, il va se dire que c'est complètement fou, que ça pourrait pas faire une histoire, et qu'en plus c'est mélangé à du folklore japonais un peu ancien, avec le garçon à queue de singe. Voilà, c'est des vieux mythes dont Toriyama a voulu s'inspirer. Toute l'histoire des films de kung-fu aussi, il était fan. Il a mélangé toutes ses influences, il a fait un micmac comme ça, et donc, c'est fou le résultat.
Donc pour la diffusion française, c'est de 89 à 86. Donc ça démarre, j'avais un an, ça se termine, j'en ai... 8 plus jusque 6-8 ans. Voilà. Donc ils ont fait tout Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z à ce moment-là. Je pense qu'au Japon, effectivement, il y a eu un petit break à un moment donné, léger, même pour l'écriture du manga, en fait. Toriyama a eu le temps de souffler un peu. Mais, mais par contre, c'est vraiment à ce moment-là, au moment de cette césure, après l'arc de Piccolo, du grand tournoi, que là, on sent que Jump, le magazine, demande à ce que le. En tout cas, ça se devient un peu plus sérieux en termes d'intrigue et qu'on passe à une génération un peu plus adolescente, parce que le lectorat évolue avec le temps et qu'il faut continuer de les accrocher. Donc, d'où l'idée de basculer un petit peu sur le personnage de Son Gohan pour créer une nouvelle trame principale, mais d'aller avec des enjeux plus sérieux qui sont de sauver le monde. Voilà, c'est ni plus ni moins.
Et jusqu'à la fin de Freezer, je trouve que Toriyama a réussi à bien gérer. Après, il était un peu mieux traité par le Jump que les autres, vu que c'était le numéro 1 de très loin. Parce que mangaka, c'est dur. Hein. C'est pour ça qu'il y en a plein qui n'ont pas la santé. Les vacances, ça n'existe pas. Il faut balancer son chapitre toutes les semaines. Et à moins d'avoir un succès énorme, on ne peut pas vraiment se permettre de prendre une pause. Oda aussi, l'auteur de One Piece, a pu prendre des pauses à certains moments. Mais c'est exceptionnel
pour un mangaka. Et Toriyama, ce n'est pas le plus bosseur de tous les mangaka. Hein. Je regardais encore une planche de lui tout à l'heure, où en fait il fait son autoportrait et il explique sa journée type de mangaka, c'est-à-dire qu'il se lève vers 16h, il va au café et il est manga de la semaine, il fume une clope, il rentre chez lui, il regarde sa feuille blanche, il fait « Ah merde, faut que j'écrive un truc facile parce que j'ai la flemme », et il écrit un truc facile et il rend le taf quoi.
Pour moi, c'était ça tout son génie, c'était qu'il arrivait à dessiner des trucs avec sa patte et à le faire très vite. Quand on le regardait faire des dédicaces, enfin voilà, il était là, tchac tchac tchac, il fait quelques traits, et voilà, il y a un Son Goku. Et c'est fou quand même d'avoir ce talent-là.
Ouais, dans le côté ode à la flemme, il faut savoir que l'invention du Super Saiyan, ça vient de là, c'est-à-dire que bah, quand tu lis le manga en papier, bah, tous les personnages avaient les cheveux noirs à la base. Et ça, bah, faut le remplir. Et donc, si tu crées un Saiyan qui a les cheveux blond slash blanc sur le papier, bah c'est déjà tout ça que tu as à moi à faire quand tu dois dessiner. Un grand professionnel de la flemme. Et ça se voit qu'au fur et à mesure, bah, quand on lui demandait d'écrire un nouvel arc, alors que pour lui c'était terminé, parce que déjà l'arc sel, c'est une demande en plus. L'apothéose, c'est l'arc boue, où il n'en avait vraiment plus rien à foutre. Il y allait parce qu'il y avait la thune. Et ça, par contre, tu vois, c'est Akira Toriyama, c'est la flemme, mais c'est aussi l'amour de l'argent. Et ça s'est ressenti à travers tous les spin-offs, les OAV, tout le merchandising qui a dérivé de tout ça. Et même jusqu'à Dragon Ball Super, finalement, où il dit oui, je veux participer, comme ça les fans sont contents. J'écris 2-3 bribes de scénario et allez-y broder autour de ça, les gars. Et ça donne...
Oui, je pense que c'est un bon exemple que tout le monde finit par diminuer, quoi, par devenir sénile, parce que je trouve que même les arcs sel et boue qu'il a un peu été obligé de faire par le Jump, effectivement, et plein de changements dedans. Hein. D'ailleurs, à la base, il voulait que C19 et C20 soient assez méchants pour tout l'arc. Puis son éditeur lui a dit, un gros et un vieux, vraiment, c'est tout ce que tu sais faire, c'est un peu naze. Et puis il est arrivé avec sel, donc cette histoire de voyage dans le temps. Puis la première forme de sel, elle ressemblait à un canard, quoi. Donc là non plus, l'éditeur, il n'était pas content. Donc, c'est pour ça que c'est la détransformation. C'est juste parce que il était un peu moche à la base. Et donc il a fallu
c'était une blatte.
Le rendre badass, quoi.
Ouais, c'était une blatte. Mais puis même, tu vois, sur l'arc Cell, il change finalement de protagoniste principal. Parce que à ce moment-là, tu vois vraiment qu'il tient à Son Gohan et qu'il veut en faire son main character. Et puis après, en termes d'audience, les sondages du Jump donnent que c'est toujours Son Goku le personnage préféré. Donc il dit fini Son Gohan, on repasse à Goku et Vegeta. Et puis ça va donner des générations de juste scénarios autour de Goku et Vegeta. C'est un peu dommage, c'est ce que fait la prod. Parce que quand tu reviens sur Dragon Ball, dont on a déjà parlé, c'est des flopées de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Ce midi, sur Twitch, je regardais Lamua qui était en train de faire un petit peu le tour de ses mangas, et il parlait du personnage de Bactéri. Bactéri, c'était dans un des premiers tournois des arts martiaux. Il affronte Krillin, et en fait, la caractéristique de ce personnage-là, c'est qu'il pue, il est gros, il se lave pas. Et Krillin, il se fait battre par lui en disant « Ben mince, il sent vraiment mauvais, je vais jamais pouvoir y toucher. » Et puis là, t'as Goku, il fait « Mais Krillin, réfléchis un peu, t'as pas de nez. » Ah ouais. Et puis il le bat parce qu'il se rend compte qu'il le sent pas, et il lui pète dessus au visage juste après. C'est complètement gamin, mais tu vois qu'il arrive à créer des personnages et à avoir des scénarios brillamment. Tu vois, il était pas obligé de faire tout un arc dessus, mais c'est un excellent chara designer. La preuve, on l'a demandé sur tellement de jeux vidéo à côté. Est-ce qu'on ne passerait pas à ce premier épisode de Dragon Ball Z?
Ben si, ce serait bien.
Il serait temps. Allez, je vous amène dans le monde de Dragon Ball, les amis. On découvre des paysages colorés avec le style toriyamesque qu'on leur connaît. Ça se passe 5 ans après Dragon Ball. Dans Dragon Ball, précédemment, on a vécu donc le dernier grand tournoi des arts martiaux où Son Goku a vaincu le terrible Piccolo, Satan Petit Cœur. Donc là, nous sommes dans les campagnes du monde de Dragon Ball sur Terre. On découvre des genres d'autruches roses. Et on est à la campagne. Les gens vivent paisiblement. On voit que le temps passait. Et au loin, on entend une femme crier « Son Gohan, Son Gohan, où es-tu ?» C'est le personnage de Chichi. Elle a bien grandi en 5 ans. Elle est devenue mère. Et oui, Son Goku et Chichi ont eu leur premier enfant. Il s'appelle Son Gohan. Et on l'a déjà perdu. On a perdu le gamin dans les bois. Du coup, on va basculer du côté de Son Goku qui, lui, bah, tranquillement, il est en train de couper des arbres. Non, comme dans le premier épisode de Dragon Ball, là, il faut qu'il fasse du bois pour la maison. Sauf que là, il fait des énormes arbres. Il est devenu super fort. Il ramène un arbre à la maison. On remarque dans le décor, petit clin d'œil, que la maison de Son Goku et de Chichi a été construite à côté du petit temple où on a découvert Son Goku enfant, où il y avait la boule de cristal de Son Gohan, son grand-père. Et donc là, Chichi lui demande, mais Goku, où est passé Son Gohan? T'as fait attention? Ah bah j'ai faim moi. Bon, c'est le Goku qui est déjà un très bon père de famille dès le début. Il perd le gamin dans les bois et au lieu de le chercher, il a la dalle. Bon, Bulma lui met, Chichi lui met un coup de pression. Il n'y a pas eu de jeu de genre avec Bulma, pardon, j'ai rien dit. Chichi lui met un coup de pression. Bon, Goku va aller chercher l'enfant dans les bois. Sauf que bah là, on bascule du côté, avant d'aller dans les bois, du côté de la ferme. On se dit, bah tiens, on va voir les paysans. Peut-être que Son Gohan s'est perdu par là. Et en fait, il y a une tache qui arrive du ciel, qui fonce vers la terre. Est-ce que c'est une comète? Ça s'écrase dans le sol. Le fermier va voir l'impact qui est démentiel. Et au fond, bah, c'est pas une comète. C'est une capsule. Une capsule spatiale, ça ressemble à une Pokéball blanche. Et de là, sort un homme, un genre de guerrier Saiyan, parce que nous, on le sait maintenant, on est en 2024. Il sort et là, il regarde l'humain et il fait... Il a un petit capteur au niveau de là, il fait « Ah, 6 de force. » C'est nul. Et là, le mec, il... 5 de force, Lucas ? On dit moins ?
C'était 5, très c'était exactement. 5 et c'est le même force. Chiffre dans le manga.
Ok. 5 de force, il trouve ça nul. Et là, le type, il est avec son fusil, il fait « Mais qu'est-ce que vous faites de là ? Rentrez tout de suite chez vous. » Il lui tire dessus. Là, bah, le protagoniste intercepte la balle. Et puis, il lui rebalance à la gueule. Et là, le type, il se fait... Il n'est pas mort, mais il se fait bien défoncer sur le coup. On l'envoie valdaguer. Bon, il y a de la menace. Et puis, en plus, il fait... je sens une force terrible qui se trouve à 4224. On ne sait pas si c'est des mètres, des kilomètres. L'animé ne nous le dit pas. Mais il se trouve à 4224, le personnage fort. Donc voilà, il va partir. Pendant ce temps, on retourne dans les bois. Et là, on le trouve, Son Gohan. Et Son Gohan, eh ben, tu le vois avec son petit habit, un habit traditionnel presque chinois. Et sur son petit chapeau rouge, il y a une Dragon Ball. C'est la Dragon Ball à 4 étoiles, celle de Son Gohan, son arrière-grand-père finalement. Donc c'est la transmission. Et petit problème, eh ben, dans les bois, tapis dans les fourrés. Là, il y a un tigre qui surgit et il pique le chapeau à Son Gohan. Donc Son Gohan, il dit « Ah non, touche pas à ma boule, je veux récupérer ma boule. » Il lui court après dans les bois. Et puis, bah, problème, c'est qu'à un moment donné, au bout du bois, bah, il y a un ravin. Et là, c'est le milieu de l'épisode et on a une publicité si vous êtes dans les années 90. Et si vous regardez sur une plateforme de streaming, on passe tout de suite à la suite. Parce que dans le ravin, Gohan, il est tombé. Mais on le retrouve la tête à l'envers. Ah, et il dort. Parce que Gohan, comme Son Goku, quand il était enfant, il a une queue de singe et il a pu se raccrocher à une branche. Bon, petit problème, la branche pète et il va tomber, et il va se retrouver plus bas, errer à nouveau dans les bois. Je ne sais plus ce qu'il chasse à un moment donné. Mais il va essayer de s'en sortir. Goku, lui, il fouille, il va dans la forêt, il va dans les bois, il monte sur son nuage supersonique. Et il finit par retrouver Son Gohan au moment où Gohan, il est en train de monter sur une branche parce qu'il voit un oiseau. Ah oui, il a vu un joli oiseau, il veut aller voir l'oiseau. Coucou oiseau, que tu es beau. Et la branche, elle bascule. Et Gohan, il va tomber dans la rivière. Ouais, Gohan, il est poissard. Et là, Goku, il est avec son nuage supersonique. On se demande encore pourquoi il en utilise un, vu qu'il s'est volé, théoriquement. Mais bref, c'est pour la nostalgie, sans doute. Et il essaie de rattraper Son Gohan, il lui tend la main, il n'y arrive pas, tu vois. Et Gohan, mince, il y a une grotte, il passe sous la grotte. Goku, il fait, je pourrais passer et voler à ras de terre, mais non, je vais escalader par là-dessus. Alors, il arrive au-dessus de la grotte. Il repique vraiment en flanc de colline et là il veut choper le gamin, tu vois, flanc de falaise, il veut choper le gamin à la sortie de l'eau, il va vraiment le plus vite possible vers le bas, il le retrouve pas, waouh, est-ce que Gohan est mort? Et puis on entend papa, 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 viens me sauver. Et en fait Gohan, il est beaucoup plus haut que la sortie de la cascade de la rivière, donc en fait Goku, c'est bizarre, tu vois, comment ça se fait que t'es tout là-haut? Là, Gohan, il veut pas répondre. Il dit, bah, je sais pas, papa. Sous-entendu, Gohan, il a commencé à voler. Il aurait des pouvoirs de super-héros comme son papa. Mm-hmm. Et pendant ce temps, eh ben, on découvre que le protagoniste, le bonhomme qui est un méchant, qui a de l'espace, bah, il a découvert la personne qui avait une certaine puissance. Et c'est Piccolo, Satan Petit Cœur. Il est sur une plaine, très, très Dragon Ball, toujours. Et il a... Mais qui êtes-vous, étranger ? Il fait, bah, je suis le gars qui te trouve trop faible. Donc, bah, on va s'en arrêter là. Et Piccolo, il veut l'attaquer. Il balance une grosse boule d'énergie directement. Et là, bah, le méchant, il bouge pas, quoi. Oh non, vraiment trop faible. Allez, je vais passer à autre chose. Et bah, là, on comprend qu'il va aller direction là où il y a encore plus d'énergie, celle de Son Goku, qui se trouve à 11283, je sais pas quoi. Mais il est là. Et la suite au prochain épisode. Est-ce que j'ai pas fait le tour du premier épisode, j'ai rien raté ?
Eh ben si, non, c'est non. À peu près ça, hein, on y est.
Ça pourrait même être résumé encore plus simplement en disant bah, c'est Son Gohan, il se perd, Goku le cherche, et pendant ce temps-là, il y a Raditz qui arrive.
Voilà.
Ah, c'est vrai qu'on ne dit pas encore son nom, mais il est là.
Il est là.
Après, ouais. Dans le manga, ça correspond à rien, vu que toute la partie Gohan dans les bois, elle n'existe pas. Hein. Ils vont direct chez Tortue. Ils disent qu'ils vont le faire dans vrai, l'épisode, mais ils sont déjà dans le manga.
Ouais.
Ils vont chez Tortue Géniale, en fait.
Ça
ils
commence par là. Effectivement. Mais voilà le premier épisode. Petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé là, quand on le revoit aujourd'hui en 2024 dans son jus d'antan ? Oh, Mehdi, fais-nous.
Mon cher Mehdi.
On a vu la mou.
Ok, je commence.
Ouais.
Bah, oui, hein.
Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai trouvé ça vraiment mauvais. Alors, déjà, je l'ai regardé en français, donc ça n'a pas aidé. Mais outre ça. Bah, il se passe rien dans cet épisode, vraiment, comme je l'ai résumé, c'est Gohan qui se perd et Goku qui le cherche.
Me dis, on perd un enfant dans les bois, il se passe rien pour toi. C'est pas, c'est pas le risque de perdre toute l'âme de la jeunesse.
Mais le pire, c'est qu'il y a deux fois, il se perd. En fait, il y a un moment où il est perdu, il pleure, ah, je suis perdu, oh, papillon, oh, il est joli, et il y a...
c'est un oiseau.
Enfin,
ah oui, t'as le papillon d'abord.
Non, d'abord, il y a le papillon, et puis après, il y a genre
y a le tigre
qui l'attaque.
Le tic, ouais.
Et puis après, il arrive à se réchapper, et il pleure, ah, je suis perdu, oh, un oiseau. Et là, il repart, t'es là, il y a encore la même boucle scénaristique. Donc moi, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Tu vois que bah, c'est un semi-filler... Parce que bah dans le manga, ça n'existe pas. Ça n'a pas lieu d'être, techniquement. Enfin, c'est un rajout qui n'apporte rien, le fait que Gohan se perd. Donc, ouais, moi, c'est la preuve que jamais je ne regarderai, je pense, le Dragon Ball en animé. Ou alors peut-être la version Kai, qui va m'enlever toutes ces scènes un peu nulles, qui ne servent à rien, qui serait fidèle au manga. Parce que bah, il n'y a rien à faire. Moi, je n'accroche pas du tout à l'animé Dragon Ball, même le Dragon Ball Z, parce que trop de rajouts, trop de modifications par rapport à l'œuvre originale qui est parfaite. Voilà. Moi, ça ne m'a vraiment pas plu. J'ai vraiment baillé tout le long et je me suis dit, j'ai perdu 20 minutes.
Je tiens à dire que tu es dur avec le pauvre Son Gohan. Il est quand même seul, perdu dans les bois, et à ce moment-là, il a 4 ans. Alors, à 4
c'est
ans,
pas tu, mon problème.
Tu vois un oiseau, tu peux te perdre, me dit.
Oui, mais j'ai pas envie de voir ça, moi.
Ouais, mais quand t'as un enfant, ça marche. Tu plonges dans le personnage. Lucas, de ton
c'est
côté.
Vrai. Et pourtant, je trouve que le manga introduit mieux cet arc-là où ben, on rentre dans le vif du sujet. Quoi. Là, c'est vrai qu'on tourne un peu autour du pot. Surtout quand on a déjà lu le manga et qu'on sait ce qui se passe, on voit ce que les scénaristes ont essayé de faire. Ils ont essayé de justifier la puissance que Son Gohan va déverser par après. Mais on s'en fout, en fait. On n'a pas besoin de justifier. C'est bien dans le manga quand ça nous surprend un peu. C'est plus ça que j'ai à reprocher, c'est que je sais ce qui se passe après et que je me mets à la place des scénaristes et je me dis qu'ils ont... En fait, oui, quand t'es adulte et que tu vois ça, tu te dis qu'ils ont pas pris la bonne décision, qu'ils n'avaient pas besoin d'anticiper la suite, qu'ils pouvaient juste montrer Raditz qui arrive et qui commence à casser des gueules et à dire qui il est dès le premier épisode. En fait, c'est pas mal, tu ouais. vois.
Non, vas-y.
Ça met de l'attention.
Mais tu sais, déjà, enfin, dans tous les arcs précédents de Dragon Ball, là, dès que tu changes d'arc, du côté de l'animé, ils se font plaisir et t'as toujours un petit début pour réinsérer les gens dans l'histoire doucement, quoi. T'as toujours un moment où Son Goku va passer le permis de conduire.
Oui, mais on s'en fout.
Mais oui et non. Quand moi je le voyais à l'époque, je trouvais ça sympa. Ça changeait. On venait d'avoir 3 mois de baston infernal et souffler 1 ou 2 semaines avec un truc un petit peu. un petit peu léger, un petit peu gag. En fait, tu reviens sur des moments un peu plus Dragon Ball. Quand c'est comme ça, c'est moins Dragon Ball Z. Et donc, de voir Goku qui nous fait un gag, parce que quand on lui demande d'aller chercher le gamin, lui, il pense à bouffer. C'est un peu plus léger, parce qu'après, ça va devenir pas léger du tout. Hein. Quand tu regardes le générique et tu vois tous les personnages réunis ensemble, tu sais que c'est un Battle Royale. Ils vont tous finir par mourir dans l'arc, plus ou moins, quand Vegeta va arriver après. Donc... c'est bien qu'il y ait eu un petit moment sympa pour le petit Gohan, quoi. Puis ça va mettre en place aussi légèrement les relations avec Piccolo qui va devenir son mentor. Ouais, il faut se rappeler qu'il faut meubler aussi à cette époque-là, quoi. Donc l'anime, le manga toujours en cours d'écriture, donc faut prendre ton temps. On l'a dit, ils l'ont fait pour plein de séries, notamment Bleach. Mais ils n'ont pas fait de saison entière de filler. Hein.
C'est pour ça que c'est mieux, je trouve, dans l'animation actuelle. Qui décide de faire des saisons, quitte à avoir des fois un an ou deux d'attente entre chaque saison, mais c'est l'adaptation sans rajout de piètre qualité tout le long des longueurs. Parce que on n'a pas encore parlé, mais les longueurs du combat de Freezer contre Goku, les 10 minutes qui durent plus de 20 épisodes, ça va 2 minutes quoi.
Non, ça va des semaines.
Donc, c'est vrai. Ça ne va pas 2 minutes, du coup. Mais, donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça super que dans l'animation actuelle, ils aient appris de ces erreurs-là et qu'ils arrêtent de faire des animés fleuves, comme on les appelle, et qu'ils fassent des animés en par saison pour éviter de rajouter des longueurs là où il n'y en a pas besoin.
Oh, c'est sûr que l'animation actuelle, quand il passe par saison, c'est pas plus mal. Hein. On va directement au vif du sujet. Et voilà. Moi, je suis quand même nostalgique de tout ça. J'avais recommencé Dragon Ball. Je suis revenu vraiment aux anciens. J'arrive au premier tournoi là. C'était sans savoir ce qui allait arriver cette semaine. Mais voilà, je suis toujours un petit peu nostalgique de cette époque et je me réjouis de mater ça avec mon gamin bientôt, quand il aura envie de découvrir Dragon Ball. Et de faire la bagarre dans la cour de récré avec ses copains, ce sera un bon sujet de dessin animé ensemble. Mais tu vois, je suis déjà en train de me dire, c'est quand même dommage, tu vois, il ne l'aura pas en hebdomadaire comme nous à l'époque, et il ne pourra pas revenir le mercredi après-midi et dire, j'ai mon épisode, et on va en parler avec les copains après. Tout est déjà sorti, c'est toute une époque. Voilà, un truc à rajouter juste pour cet épisode, après je ne sais pas si vous avez des choses à dire encore, mais par contre pour la VF, chose bizarre, je ne m'en souvenais pas, les voix de Chichi, les voix de Piccolo, de Raditz sont les bonnes, autant j'ai regardé l'épisode sur ADN, je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est une perte de droits d'auteur, mais c'est pas la bonne voix de Goku, c'est pas la bonne voix de Gohan dans le premier épisode.
Je sais pas. Voilà. Je les ai jamais entendus de base, donc moi j'avoue que...
Gohan, c'était Brigitte Le Cordier aussi, non?
Oui, c'est elle qui le reprend, mais c'est pas elle dans cet épisode-là.
C'est bizarre, j'ai pas d'explication non plus.
Voilà, donc j'ai pas enquêté parce que on va se le dire, ça s'est fait en last minute le choix de cet épisode vu l'actualité, et donc je l'ai maté à 21h juste avant d'enregistrer, de se mettre autour de la table à 21h30, donc j'ai pas vu le méga temps de la fouille d'infos, mais voilà, c'était le premier épisode de Dragon Ball. Est-ce que vous avez envie de voir la suite ou de le recommander à d'autres personnes?
Je pense que, comme Mehdi, moi, je relirais plutôt le manga. Hein. J'ai pas autant de temps que ça, et je connais bien le manga, et j'ai déjà lu au complet. Et, c'est toujours passionnant, Dragon Ball. C'est fou de repenser à l'histoire de ce manga en le relisant, parce que c'est déjà une œuvre incroyable, mais le contexte et ce qu'elle est devenue, c'est tout aussi fou.
Alors moi, tu sais quoi, je te conseille que tu le regardes avec la bande-son de l'animé en fond, parce que la bande-son, elle est culte aussi.
Ah, il y a des super musiques. Moi, déjà, le tout premier générique en japonais, je trouve que c'est une des meilleures chansons de tous les temps. Quelle performance vocale et quel punch, quoi. Les petits synthés, là, ils caressent les oreilles.
Shala Het Shala.
Ah, ça, c'est Dragon Ball Z.
C'est le Z.
Je sais plus le titre du générique de Dragon Ball, tu vois, en version originale. C'est du japonais et du coup, j'ai du mal à m'en souvenir. Mais de toute façon... Toutes les musiques de Dragon Ball, c'est que des thèmes qui sont super célèbres maintenant.
Clairement. Je les écoute avant de préparer l'émission, pendant qu'on était en train de faire à manger pour le petit.
Et est-ce que vous savez si dans Dragon Ball Z Kai, du coup, ils ont remasterisé ces thèmes-là ou ils les ont changés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais plus.
Je suis jamais passé par Kai. Mehdi, toi, t'as regardé Kai, non?
Non, pour l'épisode ici, j'ai regardé le format classique de l'époque. Mais non, en fait, Dragon Ball, ils ont fait une version qu'ils appellent Kai, mais ce n'est pas les fans Kai d'Internet.
Non, non.
Parce que le Dragon Ball Z Kai, c'est donc une version déjà censurée, où en fait, ils ont, par exemple, le moment où Son Goku est transpercé par l'attaque de Piccolo. En fait, c'est juste un gros bleu et c'est plus un trou avec du sang.
J'ai un bleu, je vais mourir.
Comme ça. En même temps, ils ont remasterisé la vidéo. L'audio, je ne sais pas du tout. Par contre, ici, j'ai mené une petite enquête très rapide concernant le doublage que tu as fait part.
Je ponctue ton information, Kai. C'était destiné pour le public américain essentiellement, en plus. Ils ont découvert Dragon Ball Z.
Tout la censure, évidemment. En Europe, on s'en fout un peu.
Alors, ici, je ne trouve pas d'infos concernant le doublage de Son Gun. Apparemment, ce serait quand même bien Brigitte Le Cordier. Maintenant, peut-être qu'elle n'avait pas encore adapté son jeu sur le Son Gohan, et c'est peut-être pour ça qu'on ne la reconnaîtrait pas. Par contre, effectivement, Son Goku, ce n'est pas le même comédien français de doublage. Parce qu'il faut savoir que c'était Thierry Redler dans les 10 premiers épisodes. Et puis après, on est passé sur Patrick Borg. Mais il y a aussi deux autres personnes qui ont doublé Son Goku, parce que visiblement, il avait besoin d'un remplacement, il devait être malade ou quoi. Mais des épisodes 160 à 163, c'est Antoine Nouel. Et de l'épisode 165 à 167, c'est Alain Flick qui ont doublé Goku à la place de Patrick Borg, qui a aussi doublé d'autres personnages. Mais voilà, pour la petite info, c'est arrivé avec quelques autres personnages aussi d'avoir des voix de remplacement quand c'était nécessaire sur un épisode ou plus, quoi.
Ben voilà, ça au moins ça éclaire le sujet, parce que j'avais vraiment un souci en me disant c'était pas comme ça dans mes souvenirs, c'est bizarre.
Mais on peut préciser que les doubleurs en ont pas mal parlé, hein, des enregistrements de Dragon Ball, enfin ceux qui sont encore avec nous et qui ont eu l'occasion en ont pas mal discuté, parce que malheureusement voilà, certains sont partis depuis. Brigitte Le Cordier a même sa chaîne YouTube que vous pouvez checker. Elle fait ses petites vidéos où elle parle de doublage ou d'autres choses. Elle a fait des blagues téléphoniques aussi en appelant des gens avec sa petite voix fluette.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pas le malaise, le fait que Brigitte Le Cordier soit coincée dans le corps de Son Goku depuis les années 90?
Non, elle a aussi fait Oui Oui.
Oui, elle a fait c'était plein de séries pour enfants, en fait. Et puis Pipoudou, qui est pas tellement pour les enfants mais qui est animé aussi. On ira checker ça peut-être un pilote un jour, qui sait. Si on a envie de vous faire le coup
du mal. On a envie de vous faire du mal.
Ouais, voilà. Un peu de sadisme, hein, de temps en temps. Non, mais c'est vrai qu'une série comme ça où on double en français et on n'a pas beaucoup de budget, on enregistre très très vite. Mais très vite, ça veut dire une prise. Sauf si vraiment on s'est gouré de mots ou quoi, mais on le refait pas, en fait, les répliques. Donc on les enregistre et voilà, ça part. C'est diffusé à la télé. Donc forcément, il y a des trucs où ils s'amusaient et qui voilà, sont passés, ou bien qui n'étaient pas super bien joués. Bon.
Ah, c'était une époque où il n'y avait aucun contrôle, c'était beau.
Ouais, c'était une autre époque, voilà, c'est tout. C'était un métier difficile, doubleur.
Pour te placer, il n'y avait pas Internet, il y avait ce qu'on appelle le courrier des lecteurs. C'était encore différent. T'étais même censuré avant de pouvoir écrire. C'était bien.
Yes.
Je pense qu'on a fait le tour, là, Mehdi.
C'est ce que j'allais dire. On a fait le tour. Moi, pour revenir quand même sur le fait de recommander ou pas, voilà, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas kiffé l'animé. Je ne le recommande donc pas spécialement. Par contre, je recommande chaleureusement aux gens de relire le manga, qui est beaucoup mieux, beaucoup plus rythmé, etc. Donc, même, je trouve plus joli. Après, c'est parce que c'est l'animation de l'époque qui fait que c'est difficile d'aussi bien animé que un manga du moment.
Oh, Dragon Ball Z, je trouve que l'effort est mis quand même dans l'animation.
Oui, oui.
C'est pas
mais
aussi
ça,
beau
ça reste
que
pas, ça reste pas niveau que le manga, c'est ça.
Non, mais c'est joli.
Non, oui, quand tu remets ça dans le contexte, donc on est dans les années 90 pour la partie Dragon Ball Z. Quand tu vois Dragon Ball Super actuellement, quand ils sortent tels quels, ils sont pas mieux que dans les années 90. Donc,
Il y a des trucs bien ratés, mais je pense que c'est une autre problématique, parce qu'on est encore plus dans la logique de rentabilité qu'à l'époque. On a réussi à être pire. Waouh, bravo. Et donc du coup, il y a des plans qui sont finis, alors qu'ils sont pas finis, en fait. Oui. Mais les animateurs savent quand ils font de la merde. Ils sont au courant. On peut leur rappeler sur Internet, on peut faire tout ce qu'on veut. Ils savent que voilà, il leur fallait une semaine de plus, c'est tout. Mais c'est triste, mais c'est comme ça.
Eh oui, bon, là, on vous le rappelle, Dragon Ball, c'est bien. Il y a le manga, c'est très très bien. Il y a l'animé, si vous êtes de ma génération et nostalgique, ça passe en fait. Moi, j'ai revu l'épisode, je me suis pas scandalisé par le dessin ou le fait qu'il n'y ait pas encore d'action vraiment dans le premier épisode, qu'il y a un manque de rythme. C'est la nostalgie et ça fait plaisir. C'est mon bébé de Tu y souviens à moi. Voilà.
Bah,
on va dormir, c'est ça.
Ouais.
Me dis, tu
sais pas trop comment conclure, c'est bizarre.
Tu es à la lumière, s'il te plaît. Voilà. C'est le moment de remonter la couverture. On a enregistré dans le lit de Mehdi aujourd'hui, donc comme ça vous savez. C'est important de le dire.
Un lit avec des champignons alors. Ah bah, vous voyez pas encore. Il faudrait vraiment qu'on fasse live sur Twitch là.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de lancer de, comme rumeur sur moi que j'ai tellement pas d'hygiène qu'il y a des champignons dans mon lit.
Ouais, c'est le seul gars au dernier étage d'un immeuble, il a de l'humidité alors qu'il a les fenêtres ouvertes tout le temps.
Mais les draps, ça protège pas.
Allez, les amis, on vous souhaite une bonne fin d'épisode. On se quitte là-dessus. Merci Mehdi, merci Lucas, merci les auditeurs, merci Akira Toriyama. Et puis, bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours, pour vous parler de Shogun. En attendant, bah voilà, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. On est présent essentiellement sur Instagram, mais on est sur les autres plateformes également. C'était Pilote, et on vous dit à...
la prochaine.
Bientôt. Merde, on sait même pas de sacro sur ça.
Voilà, c'est dommage. Allez.
À la semaine prochaine qui est dans 15 jours.
Exactement. Ciao.